France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une actrice, scénariste, réalisatrice.
Bonjour Isilde Lebesco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci.
Si vous étiez une héroïne de roman, un sentiment et un souvenir d'enfance, vous seriez qui, vous seriez quoi ?
Là, en ce moment, j'ai pas trop envie de parler de fiction. Je pense que je serais des héroïnes de roman et je suis Neige Simon, Adélaïde Lebon, Christine Angot, Camille Kouchner, Vanessa Springora, toutes ces femmes qui prennent la parole, qui ont la force. Et voilà.
Vous vous inscrivez dans la lignée de ces femmes-là, qui ne sont donc pas fictionnelles.
En tout cas, je les admire.
Si vous étiez un sentiment ?
L'amour.
Et un souvenir d'enfance ?
Les rires entre frères et sœurs qui surpassent tout.
Qui surpasse tout. Le psychanalyste Jacques Lacan disait « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas, les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. » Qu'est-ce que cela vous inspire ? Dire la vérité toujours, mais toute la dire, c'est impossible ou pas ?
Oui, c'est sûr, et puis on la cherche. À travers l'écriture, je suis beaucoup revenue dessus parce que parfois c'est pas la première phrase qui dit vrai. Il faut chercher les mots qui résonnent juste.
Et quand on lit votre livre, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin, pour ce livre-là, qui est votre premier livre, qui s'appelle « Dire vrai » chez De Noël, un récit autobiographique puissant, éprouvant, déchirant, toujours nuancé aussi, où vous retracez avec courage votre parcours de femme, mais on a l'impression que chaque mot de votre livre a été réfléchi, qu'il a été pesé, sous-pesé, repesé encore. Vous racontez une vie de violence et de souffrance depuis l'enfance, dans une famille dysfonctionnelle, c'est vous qui le dites, jusqu'à votre relation d'emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot, en passant par des relations tourmentées avec votre sœur Maïwenn, aussi avec Luc Besson, Emmanuel Berco, Jacques Doyon. Vous écrivez « Je vais avoir 42 ans, j'ai envie d'être moi, d'accueillir la petite fille heurtée, l'adolescente manipulée, la jeune fille meurtrie ou la mère détruite. » Mettre fin à ces cycles sombres. Ce livre-là, c'est pour mettre fin à ces cycles sombres. Isilde Lebesco ?
Oui, je crois. J'ai écrit d'autres livres et j'ai toujours écrit sur les femmes et sur leur parcours, souvent très difficile. Et là, il fallait. Je crois que je dise je, parce que c'est une ère où on a cette opportunité, ce boulevard d'être aujourd'hui entendu et enfin entendu dans tout ce qu'on surpasse tous et c'est un cadeau quand même, même si s'il est dur à porter, de pouvoir prendre cette parole pour nous toutes.
Votre livre s'ouvre par le récit d'une agression. Il y a quelques mois, en 2023, vous êtes dans un train et vous avez une altercation avec une femme manifestement instable. Elle vous frappe et vous enfonce son doigt dans votre œil violemment. Je suis pratiquement sans connaissance, je dissocie, écrivez-vous. Et quelques jours plus tard, ma petite sœur me dit que je l'ai appelée du train et j'ai juste répété en boucle « Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime ». Pourquoi cette phrase et pourquoi cette agression dans le train a été pour vous une prise de conscience ?
Cette agression dans le train où j'ai été fracassée pour aucune raison, je suis revenue les gens me voyaient tout d'un coup comme une victime parce que j'avais le visage tuméfié, j'étais en arrêt de travail et j'avais aucune raison, aucune accroche pour me dire « Tiens, j'ai peut-être aussi été responsable de cet événement. » Même si je me le suis quand même dit en me disant « Bah tiens, j'aurais pu peut-être agir autrement alors qu'elle m'a défoncé la tête. » tout d'un coup, j'étais invitée à être victime. C'est-à-dire les gens s'inquiétaient pour moi et ça m'a plongée dans cette sidération où j'ai pu relater toutes les fois où j'avais été victime dans ma vie et où je n'avais pas eu envie d'admettre que je l'étais. C'est difficile de dire qu'on est victime.
C'est difficile de le dire qu'on est victime. Il y a donc cet événement dans le train. Il y aura un autre déclencheur quelques semaines après. C'est les révélations de Judith Godrèche sur son histoire avec Benoît Jacquot, qui a porté plainte pour viol. À ce moment-là, la police vous appelle pour savoir si vous aussi vous voulez témoigner, puisque vous avez eu cette relation, et on va y venir avec Benoît Jacquot, de vos 16 à vos 24 ans. Il y a aussi des sollicitations dans les médias, on vous dit, Isil de Besco, est-ce que vous voulez parler? Vous déclinez les demandes d'interview et vous dites, ce rôle de victime que j'ai refusé si longtemps, je suis invitée maintenant à le tenir publiquement, médiatiquement. Vous dites non, et aujourd'hui il y a ce livre.
Parce que j'avais envie qu'il soit vrai, qu'il soit donc nuancé, et pas seulement prendre une chose qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire c'est tout un système, c'est toute une histoire, et on vit tout tellement ça, que cette parole, il faut la dire juste.
La dire juste. Et vraiment, je trouve que c'est ça le ce qui est très fort dans votre livre, c'est que vous voulez la dire juste. Vous voulez la dire juste, et elle sonne juste quand on la lit. L'enfance décide, disait Sartre, et dans votre cas, c'est plus vrai que jamais. Vous écrivez, mon enfance a été marquée, mon enfance a marqué à jamais mon rapport au monde. Vous grandissez dans cette famille dysfonctionnelle avec des parents que vous jugez, je vous cite, autoritaires et violents au milieu de vos frères et sœurs, dont la plus célèbre est Maïwenn. C'est cette enfance livrée à vous-même où vous faisiez vous-même à manger avec vos frères et sœurs. Vous avez subi de la maltraitance, des coups. On était frappés et c'était normal, écrivez-vous. C'est cette violence-là qui vous a prédisposé à devenir plus tard un objet de violence, à devenir une proie. Vous dites, j'étais une proie. Ça vient de l'enfance.
Oui, ça vient de l'enfance, mais c'est pas que les coups, c'est, y a tellement de femmes qui vivent la violence, qu'elle soit physique ou mentale. Quand elle est physique, elle est palpable, on la voit, et c'est un drapeau rouge et ça montre ce que ça fait au mental. Mais c'est pas que ça. Tellement de femmes vivent ça alors qu'elles ont pas forcément été tapées, mais parfois négligées.
Rabaissé,
humilié perpétuellement, même à l'école, même partout. Et une femme, elle enregistre ça et accepte tout naturellement ce continuum.
Et devient une proie, écrivez-vous. Il y a une figure importante dans cette famille qui s'occupe de vous, c'est votre grande sœur Maïwenn. Il y a un chapitre consacré à Maïwenn. Vous écrivez, elle avait mon admiration et mon dévouement absolu. Je me sentais tellement chanceuse de l'avoir comme grande sœur. Sauf que très vite, elle va partir vivre avec Luc Besson, qui va être la première figure masculine dans un premier temps rassurante. Pour vous, le premier à vous promettre une vie de famille normale, heureuse. Sauf que quelques temps plus tard, il quitte Maïwenn, qui vient d'accoucher. Et là, vous le vivez comme un abandon. C'est important pour vous cet épisode, c'est-à-dire de la petite sœur qui voit sa grande sœur abandonnée par l'homme qu'elle aimait.
Oui, parce que il y a les souffrances qu'on subit et puis il y a celles qu'on voit chez les autres, et elles peuvent être tout aussi terribles. On le sait, les frères et sœurs, quand il y en a un qui est victime d'inceste, c'est tout aussi fracassant. Donc moi, j'ai été témoin de ça et c'était terrible, à la fois pour l'empathie que j'avais pour ma sœur et que j'ai, et à la fois pour cette promesse d'avenir qui est en fait terrible.
Ma plus grande crainte était d'être abandonnée, comme Luc, premier modèle masculin, avait abandonné ma sœur. Tout le long du livre, vous écrivez dans vos relations avec vos hommes, avec les hommes de vos vies, votre tétanie, c'est d'être quittée, d'être abandonnée. Ça revient en permanence.
Oui, et du coup, ça m'empêche de considérer la situation comme elle l'est vraiment et de faire un vrai choix, parce que je veux tellement pas être quittée que c'est ça qui m'importe, alors que...
Comme votre sœur est poussée par votre mère, vous commencez très tôt une carrière d'actrice. Dès le début, vous racontez, il y a des pages, les difficultés d'être une jeune actrice mineure. Vous avez 14 ans quand vous commencez dans le milieu du cinéma. Vous racontez qu'une réalisatrice, Brigitte Koskars, je la cite parce que vous citez les noms, exige que vous regardiez L'Empire des Sens, ce film érotique japonais, pour avoir un rôle. Vous avez 14 ans, vous devez regarder cela. Vous racontez aussi les tournages avec Emmanuel Berco, qui sort de la Fémis, qui vous fait jouer dans ses premiers films, dans ses courts-métrages, où vous devez jouer à 15 ans une longue scène de sexe, où vous devez refaire une scène de baffe à plusieurs reprises. Vous écrivez, les tournages avec Emmanuel étaient une aventure à la fois géniale et éprouvante, une expérience intime exposée aux yeux de tous. À force, la violence et l'humiliation courantes sur les plateaux me sont apparues banales. Là encore, état de dissociation, la violence est banal, il faut l'accepter parce que c'est comme ça. C'est ça qui ressort.
Oui, et puis il y a aussi tellement la conscience d'une chance et de choses positives à la fois dans ce que on acquiert dans son métier, financièrement, dans des relations. C'est aussi tellement intense et tellement riche qu'en fait on nomme pas, on n'a pas aussi suffisamment de recul pour nommer les choses et même se défendre.
Et puis il y a aussi cette expérience avec Jacques Doyon qui vous promet de vous faire jouer dans un film. Vous commencez des séances de travail pendant plusieurs semaines, sauf qu'à un moment il se rapproche de vous. Il veut vous prendre la main, vous la retirez, un long moment de silence, il vous regarde et conclut « Tu ne vas pas faire le film, ma fille Lou va prendre ta place ».
Alors, ce qui est terrible dans cette histoire...
Il a démenti, je précise aux Parisiens, il a démenti votre version.
Oui, mais ça, il suffirait en fait de parler aux acteurs du film carrément à l'ouest, avec qui j'ai travaillé des semaines et des semaines, que j'ai pas fait le film parce que j'ai refusé sa tentative d'intimité. C'est une chose et c'est très très banal. Ce qui est dégueulasse, c'est d'avoir travaillé des semaines et des semaines, et surtout d'avoir volé mes mots, volé mon essence pour faire ses films, comme il a fait probablement dans la plupart de ses films.
Et je précise que vous n'avez pas été payé pour ces,
jamais, bien sûr,
ces semaines de travail.
Et que lui s'enrichit sur le dos du cinéma français en les volant la substance des enfants et des jeunes filles.
Isilde Lebesco, il y a le cœur de votre livre, à savoir cette relation longue avec Benoît Jacquot. Je rappelle, vous avez 16 ans, il en a plus de 50 à l'époque. Il vous fait jouer dans son film Sade avec Daniel Auteuil. Vous dites comment Benoît Jacquot demande à la production de vous prendre une chambre dans le même hôtel que lui. Vous vous dites comment il repousse vos limites, comment il essaye de vous convaincre de tourner nu, de montrer toute votre intimité. Quand vous refusez, il va mettre des scènes de porno à votre place, sans vous demander. De mes 16 à mes 24 ans, Benoît m'a tenu par le pouvoir qu'il avait sur moi, par ce qu'il incarnait autant que par la place qu'il occupait dans ma vie. Il était devenu un père, une mère, de plus que pour moi. Son regard me portait et m'annulait en même temps. Vous parlez d'une emprise destructrice, d'une perte de soi, de violence psychologique. Vous racontez aussi de violence physique, comment il vous gifle, comment il vous explique qu'il était anormal, que vous ne vouliez pas coucher avec lui. Prisonnière de mes manques matériels et affectifs, j'étais le terrain parfait pour toutes les maltraitances.
Benoît Jacquot, c'est simplement un homme de son époque. Je me sers de ça pour parler d'une époque et pour parler de comment un homme riche, plus vieux, qui a du pouvoir, se sert d'une adolescente pour en faire ce qu'il veut, et une adolescente pauvre. C'est très banal, en fait.
Oui, mais je garde de tout ce passé avec lui cette sensation de dérapage de tous les instants, un dysfonctionnement qui s'installait fondamentalement et des valeurs morales déviantes. Le chapitre consacré à Jacquot s'intitule « Turpitude, laideur morale, action honteuse, écrit ou parole ignoble ».
Oui, mais c'est simplement un homme de son époque. Ce qui est... Moi, je dénonce rien, tout ça... Les gens le savent, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans absolument tous les milieux, sauf que on n'entend pas la parole des femmes qui vivent dans ces situations. Mais au final, si elles ont l'opportunité de revisiter leur histoire, c'est uniquement ce qui peut en rester.
Est-ce qu'aujourd'hui on les entend plus, ces femmes ?
Oui, un petit peu plus, et on leur donne du courage, beaucoup, je crois, de parler, de nommer, de qualifier ce qui est dissonant, ce qu'il a été, et leur donner la force, oui, de pouvoir peut-être changer, même si c'est très difficile au début, c'est pour le meilleur.
Il y a des pages que vous écrivez sur le corps, sur la prise de pouvoir des autres, des puissants sur votre corps, Isilde Lebesco, en permanence Benoît Jacquot, mais aussi d'autres. Lui, il surveillait ce que vous mangiez, il vous reprochait d'être trop grosse. Tu es belle, mais tu es trop grosse, tes cuisses sont comme de gros jambons, tu dois les affiner. La prise de pouvoir, la possession passe aussi par ce corps qu'on vous demandait en permanence de maigrir.
Oui,
d'affiner.
Mais parce que comme j'étais actrice, c'était une porte d'entrée soi-disant bienveillante pour ma carrière de contrôle. Mais ça aussi, c'est très très banal. Un homme qui veut contrôler une femme, mais c'est partout.
Sur la question du viol, quand on vous demande ce mot, parce qu'il faut nommer les choses, est-ce qu'on nomme un viol ? Est-ce que ce qui s'est passé avec Benoît Jacquot, c'était un viol ? Vous répondez, dire que Benoît m'a violée, c'est évident, mais le mot viol est réducteur. On imagine dans le viol un acte physique, une fille qui se fait prendre de force alors qu'elle ne veut pas, alors qu'avant de me violer physiquement, Benoît a violé mon esprit.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire un viol physique, menace, surprise, contrainte, violence, c'est pas les viols qui se passent tous les jours. C'est-à-dire que la plupart des viols, que ce soit l'inceste ou les viols dans les familles, qui sont plus de 85% des cas, c'est un viol où la personne prend la confiance de l'autre et va rentrer comme ça.
Judith Godrèche, elle a porté plainte. Elle a fini par porter plainte contre Benoît Jacquot pour viol, avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. Vous, vous avez hésité, mais à l'heure où nous parlons ce matin, il vous reste 2 ans avant la prescription des faits. Vous ne portez pas plainte.
Alors, moi, vis-à-vis de la justice, je suis, comme toutes les femmes, terrifiée et surtout retraumatisée par la justice. La justice n'aide pas les femmes, donc oui, je peux me retraumatiser, mais pourquoi en fait? Et surtout aussi, la définition du viol en France exclut ma situation comme exclut la plupart des viols, c'est-à-dire surprise, menace, contrainte, violence. Il n'y a pas ça dans ma situation. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Pourquoi je vais porter plainte? Ça ne sera pas qualifié. Et de toute façon, les hommes ne sont jamais condamnés.
Parfois, mais pas assez.
Jamais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu Judith Godrèche, son discours au César?
Je trouve qu'elle a ouvert un boulevard et on doit moralement tous aller sur ce boulevard et bâtir, bétonner, construire. Et que ce soit les mots dire ne suffiront jamais, c'est certain. Mais c'est déjà un début.
Elle conclut son discours en disant il faut se méfier des petites filles. Elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent.
Quand elles peuvent, oui. Et on espère que ce sera toujours comme ça.
Et vous êtes cognée, vous êtes blessée, Isilde de Bescot. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec ce livre, il y a une forme de réparation, de reconstruction, de rebondir?
Je ne sais pas si on se guérit vraiment. Je pourrais vous le dire dans quelques années, si j'arrive à vivre guérie, c'est-à-dire comme si j'avais une jambe cassée, est-ce que je pourrais recourir, remarcher, comme si je n'avais pas eu cette jambe cassée? Je ne sais pas encore.
Je mets des mots pour nos enfants, pour vos 2 fils. Ce livre, c'est aussi pour eux. Que vous avez écrit, qu'ils se sentent libres de toute emprise. Je suis grande, je ne peux plus ne pas me défendre.
Oui, oui, évidemment. Il faut dire, mettre des limites et s'exprimer.
Vos parents ont réagi dans le Monde en disant qu'ils vous soutenaient, malgré ce que vous écrivez, vos frères et sœurs aussi. Maïwenn, vous lui avez envoyé le livre?
Je crois que mon père a écrit La guérison de ma fille et ma guérison aussi. Et nos guérisons et la guérison d'une société et d'une histoire pour toutes.
Et vous espérez qu'elle le lira, Maïwenn, avec qui
Ça sera son choix.
C'est un récit bouleversant, précis, nuancé sur l'emprise et la prédation. Ça s'appelle « Dire vrai ». C'est sorti hier chez De Noël. Merci beaucoup, Isilde de Bescot, d'avoir été avec nous.
Merci.